Merci Marie-Claude pour cette présentation. Effectivement, on est bien dans cette perspective-là d'essayer de réfléchir à comment on décloisonne des territoires pour construire des politiques scientifiques de recherche en éducation. On est rentré dans pas mal de discussions, notamment sur l'affichage des politiques scientifiques et des universités à l'occasion des renouvellements et des renégociations sur les contrats quinquennaux des universités. Et je pense que ça, c'est aussi un puissant levier. Là, je vois Laurent qui hoche la tête quand je parle, parce que je pense que là, qu'il y a réellement un enjeu très, très fort à ce que les universités s'emparent de cette question. C'est par exemple le cas à Aix-Marseille, où dans la politique scientifique de l'université d'Aix-Marseille est affiché un domaine transverse, apprentissage et éducation, qui fait partie intégrante maintenant de la politique scientifique de l'université. Alors, je crois que sur ce genre d'exemple-là qu'il faut tirer les choses de façon à arriver à ce décloisonnement. C'est clairement aussi une ambition, quand on regarde dans le paysage international, de favoriser l'excellence scientifique. D'une part, en renforçant le niveau de publication scientifique, on s'aperçoit, si on regarde un peu la littérature étrangère, qu'il y a certains champs de recherche en éducation qui ne sont pas connus en dehors des petits villages français gaulois. Et il y a réellement un enjeu à faire connaître et se faire connaître aussi, parce que d'abord, il y a des tas de choses intéressantes qui sont faites en France et que c'est un peu dommage. Par exemple, que chaque fois, certains, par réflexe, vont regarder ce qui se fait au Québec ou en Belgique ou à Lausanne ou à Genève, alors qu'il y a des équipes en France qui font des choses tout aussi intéressantes, si ce n'est plus. Donc ça fait partie aussi des éléments. Je pense aussi qu'il y a réellement un enjeu à ce que, en termes de recherche en éducation, on développe les partenariats internationaux. Alors, il y a des dynamiques assez importantes, mais je pense que là, il faut le faire. Il faut réellement rentrer dans des partenariats stratégiques. Je parlais par exemple, on voit bien que sur les grands appels d'offres internationaux, on ne constitue pas un réseau au moment de répondre à l'appel d'offres. C'est pas au moment où on réalise, où on est en train de rédiger l'appel à projet on va contacter des gens en disant, tiens, on est en train de répondre à ça, est-ce que ça vous intéresse? Que pour arriver à avoir des dossiers qui ont des chances d'être retenus, il faut une collaboration qui est solide et qui est existante, et ça ne s'improvise pas. Après, il y a un vrai enjeu, et je crois que là, c'est un des points aussi de discussion avec le ministère, notamment pour les ESPE, c'est l'amélioration du ratio enseignant-chercheur-enseignant. Actuellement, si on regarde un état, c'était une étude que nous avions faite par le réseau, l'ensemble des formateurs affectés à des ESPE en France représentent à peu près 5% de professeurs d'université, 27% de maîtres de conférences et 68% d'autres formateurs, c'est-à-dire essentiellement des enseignants du second degré ou du premier degré. Pour mémoire, dans des formations très professionnalisées, comme peuvent l'être les IUT ou les écoles d'ingénieurs, le ratio est à peu près strictement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des proportions de 70 à 80% d'enseignants-chercheurs et de 20 à 30% d'autres formateurs. Il est évident et clair que sur cette question-là, modifier ce rapport-là, ce ratio-là, ça suppose de réfléchir effectivement quel type d'enseignants-chercheurs on recrute, sur quel profil, pour quel, et notamment sur quel profil recherche. Alors, je crois que là, il y a réellement un axe important. Il ne s'agit pas, et ça a été dit souvent, je vais le redire, c'est la recherche en éducation ne se limite pas à la recherche en sciences de l'éducation. La présentation de Marie-Claude le dit explicitement. Donc, il faut savoir, quand on recrute un enseignant-chercheur, comment on définit son profil recherche, c'est-à-dire dans quel laboratoire il va aller faire de la recherche et pourquoi faire. On voit bien que dans l'histoire, alors très récente des ESP, c'est pas très significatif, mais dans l'histoire des IUFM, beaucoup d'enseignants-chercheurs ont été recrutés sur des profils recherche qui n'avaient strictement rien à voir avec la recherche, voire pour des laboratoires qui considéraient que la recherche en éducation n'était pas leur tasse de thé. Donc il y a réellement un engagement fort et une politique forte à définir au niveau des universités pour que cet affichage-là et ces orientations-là soient respectées. Je dois avouer que avoir une fédération de recherche avec des laboratoires et avoir un domaine transverse comme on peut l'avoir à Aix-Marseille facilite les discussions sur ces orientations-là. C'est beaucoup plus facile de dire voilà, on recrute dans ce cadre-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des liens entre tout ça et qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Si on regarde, Marie-Claude en a donné une petite partie, un peu à voir, mais je pense qu'il y a aussi un gros travail qui est fait pour structurer la recherche en éducation au niveau national. Et je voudrais réellement souligner cet aspect-là parce que. En vieux routier de ces questions-là, puisque je faisais partie, par exemple, de l'équipe qui avait mis en place l'IUFM d'Aix-Marseille il y a déjà quelques années, je pense que c'est réellement la première fois où il y a une conjonction d'intérêts et de perspectives. Alors, si on veut développer des programmes de recherche, vous savez, les Anglo-Saxons ont une formule assez simple, c'est ils disent que si on veut des singes, il faut avoir les cacahuètes. Et donc, si on veut effectivement développer et structurer la recherche en éducation au niveau national, il faut développer des programmes de recherche, c'est-à-dire structurer et orienter la recherche en éducation par appel à projet de recherche. Alors, c'est ce qui commence à se faire, soutenir les projets et les priorités par des financements. C'est par exemple l'appel à projet IFRAN. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur celui-là. Il a été lancé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, la seconde édition, il va y avoir plusieurs vagues ouvertes. Il y a eu une première vague qui a été ouverte et dont les projets étaient à déposer le 5 février. Ont été reçus et déclarés recevables. Je nuance un peu, ils en ont reçu un peu plus que ça, mais recevables parce que ça supposait un certain nombre de conditions techniques. Donc il y a eu 62 projets envoyés et reçus Il y a eu une première expertise sur dossier qui a été faite et le comité d'évaluation de ces projets en a retenu 18 sur les 62. Ces projets avaient posé clairement et explicitement cette question-là, à savoir que pour être éligible, il fallait que les projets articulent ce que j'ai dit en départ, c'est-à-dire réellement une articulation entre des unités de recherche, la formation des enseignants à travers les ESP et le terrain à travers l'académie. Alors il y a, de ce point de vue-là, je crois réellement une volonté, et on voit que, d'une certaine manière, 62 projets déposés sur une première vague. Juste au passage, pour ceux qui ont essayé de le faire, les 62 qui ont essayé de le faire, c'était assez compliqué parce que l'appel d'offres a été publié début octobre. Il y a eu quelques variations entre la proposition de départ et ce qui était attendu à l'arrivée, enfin, etc., etc. C'était des temps extrêmement brefs, mais quand même, 62 projets déposés, on voit que là, il y a réellement un intérêt. L'ANR, l'année dernière, avait ouvert un axe sur l'éducation qui n'a pas eu un très grand succès en termes de projets déposés, mais c'est quand même une première. Et donc, je pense que ça aussi, ça contribue à ça. Il y a eu aussi un appel à projet lancé par la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale sur le métier d'enseignant. Il y a eu pas mal de réponses, plus des projets qui ont été retenus. Il y a actuellement en cours les projets qui sont initiés par la DGCIP sur la formation tout au long de la vie et sur la pédagogie universitaire. La DGESCO commence aussi à ouvrir, par exemple, avec des appels à projets sur magistère. Voilà. Je crois qu'on est dans cette direction-là qui est effectivement de soutenir le développement et la structuration de la recherche en éducation à travers ce genre de programme. C'est important parce que ça va dans ce sens-là. Il y a bien sûr l'enjeu très fort de favoriser l'émergence d'une diversité de recherche. Si je reprends ce que disait Antoine Prot dans son rapport de 2001, l'idée d'avoir cette articulation entre des recherches fondamentales qui permettent d'apprendre, d'accroître la compréhension que l'on peut avoir des systèmes éducatifs et des acteurs. Et là, on a une grande diversité de champs de recherche qui sont invités et des recherches appliquées qui permettent de produire les technologies pour améliorer l'efficacité et l'efficience de notre système éducatif. Les deux ne sont pas exclusives, il n'y a pas de territoire particulier, il n'y a pas un qui a raison contre l'autre. On voit bien que les questions d'éducation sont des questions complexes et il serait complètement idiot de s'imaginer qu'un seul chercheur ou un seul laboratoire peut développer dans ses travaux un modèle compréhensif et applicatif de l'ensemble des questions qui sont posées par l'éducation. Je parlais en début de mon intervention de l'apprentissage de la lecture. Il suffit de regarder la diversité des champs qui sont convoqués pour discuter de cette question de l'apprentissage de la lecture pour s'apercevoir que c'est quelque chose d'important et de très complexe en même temps et que la structuration est très importante. Alors, bien évidemment, ça repose, tout ce que je viens de dire, sur une valorisation des dimensions interdisciplinaires. Donc l'enjeu, c'est de passer d'une conception de la recherche qui était jusqu'à présent plutôt multidisciplinaire à une approche plutôt pluridisciplinaire, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des disciplines qui travaillent chacun dans leur coin de manière isolée, avoir des équipes et des projets qui convoquent plusieurs disciplines et qui discutent de ce que chacune peut apporter dans la discussion et la diversité des points de vue qui permet de construire ça. Donc cette valorisation des complémentarités d'apport et d'approche. Et là, on est aussi face à un noyau très dur actuellement en France, qui est ce que, dans l'état actuel des choses, les aspects interdisciplinaires sont très peu valorisés dans les carrières des enseignants-chercheurs. Par exemple, beaucoup de sections CNU ont un principe de qualification ou de valorisation des travaux de la recherche qui consiste à compter le nombre de publications que quelqu'un a dans son strict champ disciplinaire. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ceux qui se hasardent à sortir un peu de ce champ-là se voient refuser des qualifications. Je crois que là, il y a une vraie discussion à avoir avec le CNU parce que c'est un vrai souci. On ne peut pas avoir des collègues qui sont soumis à une injonction paradoxale qui consiste à leur dire « Engagez-vous dans les recherches en éducation, engagez-vous-y sur des projets interdisciplinaires, vous allez avoir des financements », sauf que pour ce qui est de leurs propres bénéfices de carrière, c'est généralement contre-productif puisqu'ils ne se font pas qualifier par la suite et ils ne se font pas reconnaître leurs travaux. Je crois que là, il y a vraiment un noyau dur, ça fait partie, je le dis ici, parce que ça fait partie explicitement de quelques débats que nous avons avec le ministère, avec le CNU, mais je crois que c'est un point important. Ceci dit, ce caractère de valorisation des carrières dans des projets interdisciplinaires n'est pas spécifique à l'éducation. On a quelques exemples en science, par exemple, où il y a encore aussi ce genre de difficultés. Le deuxième volet, c'est la structuration du transfert des résultats des recherches en éducation. Donc au niveau national, on voit bien que la diffusion qui est organisée à travers des réseaux nationaux comme Canopée, Magistère, je parlais de la formation tout au long de la vie, qui est en train de créer un ensemble de ressources pour la pédagogie universitaire et l'organisation de ce transfert. Il y a aussi tout un travail qui est fait actuellement, Roger Fougère viendra nous en parler dans ce colloque, qui est sur la mise en place des instituts Carnot de l'éducation. Alors Carnot, c'est pour ceux qui connaissent, qui s'appelleront probablement Institut Condorcet de l'éducation, qui sont typiquement des instituts qui sont chargés de ça, de faire le transfert, d'organiser le transfert entre des équipes de recherche qui produisent des résultats et pour le cas, un domaine d'application de ces recherches dans l'éducation notamment, et donc à destination des enseignants, des communautés éducatives et de tout le secteur éducatif. Au niveau régional, on voit bien qu'il va falloir réfléchir à comment on met en place ces structures de transfert, les instituts Carnot de l'éducation, les maisons pour la science et la technologie. Il y a aussi une importante dynamique qui relève un peu de l'histoire des IUFM, assez portée par les IUFM, et qui était l'organisation de groupes de travail. Alors, je l'ai appelé comme ça parce que ça prend des appellations différentes selon les langages et les dialectes locaux. Mais c'est cette idée de mettre ensemble, dans un même groupe de travail, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des formateurs, de façon à ce que cette équipe-là puisse faire le lien dont on parlait très fort et construire ces liens. Et je crois que ça, c'est un des points importants, parce que c'est ce qui permet, d'une part, de ne pas avoir une recherche hors sol, c'est-à-dire penser l'éducation mais sans jamais y aller, ou de n'avoir que de la recherche-action, c'est-à-dire élever la pratique enseignante au rang de modèle qui serait facilement généralisable et déployable partout. Donc, je crois que là, il y a un vrai enjeu à maintenir ça. Probablement, pour les instituts Carnot, ça, c'est une bonne entrée. Je sais que c'est quelque chose qui a été largement développé dans certaines maisons pour la science. Et je crois que là, il y a un gros travail. Ensuite, il y a un point qui est important et qui me semble assez généralisé, qui est d'arriver à développer les interactions entre les unités de recherche et les établissements scolaires. Moi, ce que je trouve assez frappant dans toutes les discussions que l'on peut avoir, c'est d'un côté, on a des établissements scolaires, des chefs d'établissement, des enseignants qui disent « mais nous, on aimerait bien travailler avec des chercheurs ». Et puis quand on discute avec des chercheurs dans des laboratoires, ils disent « mais nous, on aimerait bien travailler avec des établissements scolaires ». Et donc je pense que les projets d'ESP doivent porter cette idée-là de développer et de favoriser les interactions entre les unités de recherche et les établissements scolaires. Et également, alors là, c'est un niveau très variable selon les endroits, mais toutes les universités sont en train de réfléchir au développement de l'innovation pédagogique et des organisations d'évaluation à travers, par exemple, des centres d'innovation pédagogique et d'évaluation. Et je crois que là, c'était prévu dans le cahier des charges initial. C'est un point très, très important où il y a réellement un travail à faire de développement et de structuration avec les apports que chacun peut avoir. Alors, donc, le printemps de la recherche, je ne vais pas te laisser la parole à Brigitte, puisque je voudrais remercier au passage pour le travail qui a été fait pour cette seconde édition, la première, et puis celles qui vont suivre, pour qu'elle nous présente ces quelques éléments du.
Merci Jacques. Remerciements que je partage avec Dominique Berger, particulièrement actif, avec le comité scientifique et d'organisation qui a largement contribué, œuvré à la mise en place de ces journées. Rendez-vous annuel, le deuxième, disions-nous, avec un comparatif que vous voyez s'afficher. L'an dernier, 80 propositions reçues, 48 communications retenues. Un nombre important, sur les 32 ESP, 25 ESP ont conclu. Un élément fondamental dans ce tissu partenarial, ce sont des communications inter-ESP. Ça me c'est à souligner, parce que c'est ce que nous promouvons, ces échanges, ce frottement des épistémologies. Et puis, comme nous le disions, une concrétisation par des actes en ligne. Comparatif avec 2016, cette deuxième édition, où là, vous voyez le nombre de propositions qui monte à 144, ce qui veut dire une réelle prise de connaissance de l'importance de cette manifestation pour aller vers la visibilité de ces recherches et leur structuration. 72 communications retenues. Alors, avec des frustrations, évidemment, mais ça fait partie du jeu aussi. C'est-à-dire que nous avons vraiment procédé à une expertise en double aveugle, Et sans tenir compte d'équilibre. Contrairement à l'an dernier, où nous avions mis en évidence et en priorité un critère, chaque espèce est représentée. Alors, cela avait donné lieu à des controverses en disant oui, certes, mais finalement, le nombre de propositions est proportionnel ou ne l'est pas. Enfin, ça introduisait des biais dans la sélection. Là, cette fois-ci, c'est ce qui explique sans doute le passage de 25 espèces représentées à 22 espèces représentées. Ça fait partie évidemment des effets, mais je pense que ça a été positif. Il me semble que là, on a pris conscience dans les retours de frustration qu'on a pu recueillir de collègues qui ont vu leur communication écartée. Quand on voit l'écart de 72 à 144, la proportion est assez visible immédiatement. Ça a été le fait d'être très, très rigoureux, à la fois dans la méthodologie adoptée, dans la présentation de cette méthodologie, de manière à passer ce message que ce printemps de la recherche a une ambition, une exigence, et que, justement, notre propos est de montrer la force, la robustesse de ces recherches en éducation. Il ne s'agit pas d'être un colloque de l'entre-soi, où on va permettre à des personnes de publier à moindre frais d'engagement intellectuel et de temps. Ça n'est pas l'objectif, d'où cette sélectivité, alors qui est liée justement à 3 ateliers en parallèle et qui crée d'office un numerus clausus, mais en parallèle, l'exigence est là au rendez-vous et c'est important. C'est important aussi avec une idée d'accompagnement, c'est-à-dire que des collègues qui ont vu leur communication écartée cette fois-ci peuvent la représenter, mais pas la même, l'an prochain, en tenant compte de ce que les experts, les relecteurs ont apporté comme commentaire critique, et avec cette possibilité justement de soumettre une version qui sera améliorée et revue. D'une manière très très pratique, nous avons établi ensemble un certain nombre de critères assez nombreux pour qu'ils permettent de proposer une sélection qui soit vraiment fondée sur les critères de la recherche scientifique, avec une notation au final sur 10. Et la barre a été à 6,6. Voilà. Donc les communications qui étaient en dessous n'ont pas trouvé place cette année. Et là, c'est une prise de conscience aussi qui est née, je pense, sur la nécessité de monter en rigueur à certains moments. Et le but est que tous ensemble, nous soyons fiers des résultats de la recherche que nous proposons. Et vous le verrez dans les ateliers auxquels vous allez participer, d'un côté ou de l'autre, en tant que communicant ou en tant que public, cette exigence de qualité est au rendez-vous. Communication inter-espèces cette fois-ci aussi. Nous voyons aussi s'élargir le champ de la lisibilité. Au-delà des espèces, des communications sont portées par des collègues de composantes. Ça aussi, c'est important. Et puis, des collègues internationaux. Nous souhaitions aussi cette ouverture. C'est l'un des axes. Rester sur le territoire franco-français n'est pas satisfaisant. Il y a cette émulation qui est nécessaire. Et puis, cette ouverture, notamment pour aller dans le sens que Jacques développait tout à l'heure, celui des appels d'offres élargis et internationaux. 4 symposiums. Nous avions invité à Symposia, on m'a dit que Symposia était un peu trop classique. La référence latine et son neutre pluriel pouvaient déplaire. Bon, symposium ou Symposia, mais ils sont présents et ce sont des moments importants que ces rencontres. Dernière page ici qui renvoie à la mise en ligne des actes 2015. Donc vous avez juste la page d'accueil et on voit poindre le premier axe, mais il y en a 6. C'est une préfiguration, donc vous pouvez retrouver, vous les avez dans le document programme sur le site, l'ensemble de ces communications. Et pour passer à l'actualité, c'est-à-dire à maintenant, après avoir remercié, on indiquera comment s'organisent les ateliers. Alors, un grand merci, évidemment, aux membres du comité d'organisation, avec une focale particulière qui a été notée sur les espèces de Rouen, Créteil, Lille, mais notamment Aix-Marseille, parce que son président est aussi très dynamique. À la cellule administrative du réseau, Sandra Vier, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles, et nous sommes de tout cœur avec elle parce qu'un accident au plus près d'elle l'a rendue indisponible aujourd'hui. Dorothée, qui a été vraiment une merveille d'efficacité, comme toujours, mais cette année encore plus. Son équipe, oui, les applaudissements sont bienvenus. Son équipe, voilà. Daniel Feller, Fiona, Isabelle, Frédéric Stein, qui est très très active sur le plan de l'accompagnement numérique pour produire en ligne dans des temps records tout cela. À l'ensemble des collègues, au masculin, au féminin, qui ont proposé une communication au public, à tous les participants. D'un point de vue des partenariats, l'AMGEN, évidemment, nous voyons qu'il nous accueille ici encore dans ces lieux particulièrement agréable sur tous les plans, bien situé, tout à fait confortable et avec des technologies tout à fait précieuses pour permettre les communications et pour permettre ensuite le recueil de ces données qui vont être diffusées après à l'ensemble d'entre vous. La MAIF et la CASDEN pour leur contribution et puis leur engagement indéfectible à chaque fois que nous les sollicitons sont aussi importants. Et évidemment, au ministère de l'Éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour leur soutien, pour la qualité de relations qu'ils nous permettent d'entretenir avec eux, et puis pour tous leurs représentants, car je ne vais pas les nommer un par un, mais qui sont présents, alors si quelques-uns, mais il ne faut pas que j'oublie quelqu'un, là, sinon c'est affreux, c'est Sarah Roux-Périnet, François Louveau, Marianne Thomy, Claude Fabre, Katia Séry-Lefebvre, Véronique, Corinne Bouteille, voilà, je savais que j'allais faire une bêtise, Corinne Bouteille, Laurent Régnier, j'arrive au bout et j'espère que je n'ai... Si vous êtes spatialement regroupés, je n'oubliais personne, sinon vous m'avez tendu un piège, j'espère que non.